Écrit ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Catherine Laurent.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Catherine Laurent pour son livre « La possibilité d'un enfant » paru en 2024 aux éditions Hors d'atteinte. Alors merci Catherine d'être avec nous aujourd'hui. Nous t'avions déjà reçue en novembre 2022 pour ton livre « Les criants » qui nous emmenait au cœur de l'hôpital psy et nous permettait d'avoir une vision de l'intérieur en lien avec ton expérience d'infirmière. Aujourd'hui, le livre « La possibilité d'un enfant » traite de la question de l'homoparentalité. Nous sommes dans les années 80. La question qui nous vient, c'est comment est né ce livre ?
Alors, ce livre est né il y a très longtemps. L'idée de ce livre, pas l'écriture, l'idée de ce livre est apparue au moment des débats pour et contre le mariage pour tous, où on a entendu des propos très violents. Et où on a un peu, j'ai eu l'impression qu'on disséquait nos identités et qu'on interrogeait notre capacité à élever des enfants. Et à ce moment-là, je me suis dit que peut-être que j'avais quelque chose à dire que je connaissais de l'intérieur. Voilà. Et il y a l'écrivain Hervé Guibert qui a écrit je suis habilité à écrire ça car c'est mon destin. À propos du sida, et moi j'ai eu l'impression que c'est mon destin aussi, cette histoire c'est mon destin. Bon, du temps a passé, et puis j'ai commencé l'écriture beaucoup plus tard. Entre-temps, je suis arrivée à Nantes, et peut-être que la distance que j'ai prise avec un certain passé, où j'avais vécu 60 ans à Paris, m'a permis d'écrire cette histoire.
Merci beaucoup.
Alors, dans La possibilité d'un enfant, Catherine Laurent raconte le cheminement émotionnel et intellectuel de Camille, homosexuelle devenue grand-mère. Au début des années 70, émancipatrice, comment conquérir sa liberté quand l'homosexualité est fustigée par la société, réprimée par la loi et blâmée par la famille? Dans ce contexte, comment répondre à un désir d'enfant? Camille se raconte à son petit-fils Romain.
Alors justement, nous avons été séduites par ce procédé de Camille qui, pour raconter l'histoire, s'adresse à son petit-fils. J'ai trouvé ça très efficace au sens où à la fois ça dit les choses, c'est vraiment un propos, mais c'est un propos adressé, une transmission. Une levée de secrets. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très émouvant dans cette question du procédé retenu sur l'adresse au petit-fils. Qu'est-ce qui a porté ce choix ?
Oui, parce que je crois qu'il y a dans toutes les familles, il y a des fantômes, il y a des non-dits, des tabous. Oui, je trouvais ça important de pouvoir... avant de plus être sur Terre, pouvoir délivrer quelque chose de ma vie et de ceux d'une génération aussi. Donc je m'adresse à l'enfant de l'enfant, en fait. Et c'était important. Et je m'adresse aussi à ma fille pour que les choses soient claires. Pour que, même si on en a parlé, je pense que la génération de mes petits-enfants... pour l'instant, il est naturel pour eux d'avoir plusieurs grands-mères. n'y a pas eu de nom, bien sûr. Quand on a 4 ans ou 7 ans, on n'explique pas la sexualité de ses grands-parents. Mais je suis contente parce que ce livre va rester. Il sera lu, il ne sera pas lu. Mais il existe. Voilà.
Il fait trace.
Voilà.
Alors justement, dans ce livre, hein, donc, l'histoire de Camille, Julie, Elsa, Gabriel, Antoine, la place de l'environnement, de la famille, hein, tu en écris des choses et tu en écris surtout les tensions, la culpabilité qui est la tienne. Est-ce que tu as envie de développer sur justement cette histoire un peu de la famille, comment ça se vit, où ça ne se vit pas, ou comment ça se subit. Enfin bon, on voit le poids que ça pèse.
Oui, alors il faut peut-être replacer ça dans le contexte des années 70-80. C'était difficile de s'assumer dans la mesure où il n'y avait pas de reconnaissance, ni dans la sphère privée, ni dans la sphère publique. Alors, je ne sais pas si ta question c'est comment on devient parent en étant homosexuel. C'est sûr que dans l'histoire, là, dans notre histoire, il y a 4 protagonistes. Hein. Il y a 2 filles et 2 garçons. Donc, il y a le père et la mère qui sont les parents biologiques. Et puis, il y a d'autres parents qui n'ont pas... Camille n'avait pas porté l'enfant. Et Gabriel, au départ, d'ailleurs, ne voulait pas d'enfant. Et il change. Il est porté par le désir des autres, en fait. Et la place des deux parents, Gabriel et Camille, est au cœur du livre, en fait. C'est comment trouver sa place quand on est dans les années 80 et il n'y a aucun statut pour eux. Alors là, actuellement, c'est beaucoup plus simple pour les familles qui ont une constellation familiale différente. Parce qu'il y a eu le PACS, il y a eu le mariage pour tous, qui permet aussi l'adoption, qui donne un statut à l'autre parent. Donc dans les années 80, eh bien, il a fallu inventer, il a fallu... D'ailleurs, on ne cherchait pas à faire famille, comme on dit maintenant. On cherchait plutôt à créer des liens familiaux. Mmh. On n'avait aucune idée préconçue, si ce n'est de donner beaucoup d'amour à cet enfant et le maximum de sécurité, ce qu'on n'a pas toujours réussi à faire. Et parce que nous étions 4 personnes très différentes, 2 milieux sociaux très différents... Donc ça n'a pas été facile et ce livre n'est pas du tout comment dire, c'est pas quelque chose de militant dans le sens propre du terme, c'est pas un pamphlet, c'est un livre c'est un récit de vie, comme on parle de souvent dans les ateliers d'écriture, et récit de vie, et c'est un témoignage en fait. Voilà, le récit de vie. Alors, bien sûr, il y a une grande part d'autobiographie, mais il y a aussi des éléments de fiction. Parce qu'à chaque fois qu'on... La glaise, enfin, je dirais, le matériau, c'est l'autobiographie, mais le matériau, il se transforme comme la terre. Hein, c'est-à-dire, il y a une espèce de fabrication qui fait que... Les personnes de cette histoire qui ont lu m'ont dit, mais ça s'est pas passé comme ça. En fait, voilà, on peut croire que c'est vraiment mon histoire, mais c'est un peu trafiqué quand même.
D'accord.
C'est-à-dire pour être au service de ce que je voulais raconter. Je ne trahis rien, mais voilà, il y a Jim Harrison. Qui parle de l'illusion de réalité que donne l'autobiographie. C'est un peu une illusion de réalité.
Mais Comme on voit dans des histoires qui se racontent, par exemple, au sein de familles, qui racontent des événements familiaux, on a l'impression que personne n'a assisté au même événement.
Donc voilà, exactement.
Il y a cette question-là.
Oui, parce que les souvenirs, de toute façon,
on ne vit pas tous les choses de la même manière.
Exactement. Mais tu parlais là de statut de... Effectivement, aujourd'hui, le statut des homosexuels, de l'homoparentalité a changé. Mais par rapport à la famille, par exemple... Le problème peut être le même, même si l'homosexualité est plus acceptée que dans les années 70-80. Parce que là, quand même, à plusieurs reprises dans le livre, tu parles de culpabilité, de honte par rapport à ta famille. Et jusqu'au bout, ils n'ont rien accepté, en fait, quand même. Comme plein de familles.
Alors, ils ont accepté dans la mesure où ils étaient... Ils m'ont toujours aimé. Mes parents m'ont toujours aimé.
Oui.
Ils m'ont toujours ouvert leurs portes. Ils m'ont toujours accueilli bras ouverts. Mais moi, ce dont je souffrais, c'est qu'ils ne m'aimaient pas comme j'étais. Comme j'étais et comme je vivais à l'époque, c'est-à-dire avec cet enfant. Mm. Il y a eu. Je crois que mes parents n'ont pas compris. En fait, ils n'ont pas compris cette histoire. Ils pensaient que peut-être que je mettais je faisais du mal à un couple, tu vois, qui avait eu un enfant et que je me mêlais de cette histoire. Or, c'était pas du tout ça. C'était au départ. C'était avec Julie. Camille a eu envie d'avoir un enfant avec Julie au départ. Ils n'ont pas compris. Puis il y avait le poids
de la religion, apparemment.
Ils se sentaient coupables, eux aussi. Donc moi,
c'est ça qui est étonnant.
Il y avait la religion. Il y avait, oui, bien sûr. Mon père m'a dit que j'étais sous l'emprise du diable. Donc ça a été très difficile pour eux et très difficile pour moi parce que je sentais que ma seule présence les blessait quelque part. Et puis je pense qu'ils avaient un sentiment d'impuissance aussi, puisque ils ont compris que je ne changerais pas. Et j'ai tenu à leur dire, alors qu'autour de moi, j'avais beaucoup d'amis qui n'en parlaient pas à leurs parents. Moi, j'ai tenu à leur dire, parce qu'ils m'avaient éduqué comme ça, pour être honnête, sincère, être en accord avec moi-même et avec les autres. C'était le minimum de respect que je pouvais leur accorder. De leur dire ce qui se passait. Sauf que c'était inaudible, ou si c'était audible, c'était une source de souffrance, de toute façon. Donc moi, je me suis sentie effectivement très, très coupable. Et là, avec un sentiment de honte, et la honte, il y a un proverbe berbère qui dit « la honte court comme le feu ». La honte, c'est quelque chose, quand ça prend aux tripes, ça vous envahit, mais je sais que je l'ai beaucoup travaillé et que je ne l'éprouve plus puisque je ne serai pas là devant vous et je n'aurai pas écrit un livre. Mais je sais qu'elle est tout près. Elle est sous la peau, là. C'est-à-dire qu'elle peut ressurgir s'il y a des gens proches avec qui j'ai une relation affective et tout, qui me blessent, ils peuvent réveiller ça tout de suite et je vais de nouveau éprouver cette honte. Parce que la honte est liée à la sexualité. Le fait de dire j'ai une sexualité qui est liée au plaisir sans procréer, rien que ça, c'était déjà, sans avoir la possibilité de procréer, c'était déjà une agression dans le milieu social dans lequel j'ai été élevée.
Oui, parce que et pourtant, c'était un peu l'idée des années 70, justement, avec cette liberté grâce à la pilule, pour tout le monde, quoi. Enfin, pour toutes les femmes, les hommes, cette idée de liberté sexuelle sans procréation.
Oui, oui. Donc, c'est peut-être pour ça
mais
aussi...
Mais qui a été long quand même à diffuser.
C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont espéré que je change, et en se disant que c'était dans l'air du temps. Mm. Peut-être que
c'est une passade.
Voilà, et puis des influences négatives. Voilà. Mais,
D'accord.
Voilà, donc ça a été un combat. Je peux dire, et je pense que les choses ont beaucoup changé, que la société aide maintenant beaucoup les homosexuels, mais pas que les gens, les homosexuels, tous les gens de la communauté LGBT, tous les gens un peu différents et qui veulent créer une forme de parentalité différente. Mais je pense que les discriminations, les injures, les blessures continuent. Et d'ailleurs, plus il y a une société un peu permissive, j'aime pas ce mot-là parce que c'est un côté négatif, qui donne des libertés pour pouvoir vivre sa vie, plus il y a de risques que les mentalités aussi que ça se referme, qu'il y ait des agressions. En 2022, il y a eu énormément d'agressions homophobes. Alors, heureusement, maintenant, les crimes homophobes relèvent de la même peine que les crimes racistes.
Tout à fait.
Heureusement, les associations de lutte contre l'homophobie peuvent se constituer partie civile. Il y a eu beaucoup d'avancées pour protéger cette communauté, qui est très minoritaire. Nous sommes très minoritaires. Je crois qu'il y a 6% dans les villes, dans les grosses villes, 3% dans la population.
Bien. Alors, on est arrivé à la pause musicale. Donc, Catherine Laurent a choisi une chanson de Françoise Hardy, L'amitié.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages, oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages, et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse, lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie, sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur.
Vous êtes bien sur Jet FM dans l'émission Écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Catherine Laurent pour son livre La possibilité d'un enfant.
Et donc Catherine va nous lire un extrait de son livre. Tu as la parole, Catherine.
Est-ce que tu m'interrogeras sur ma différence, Romain, celle qui a déterminé ma vie ? Elle ne se voit pas sur ma figure, mais c'est elle qui tient la boussole et le gouvernail. Si je l'avais niée, je serais séparée de moi-même, donc des autres. Il est plus facile d'être homosexuel aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais il faut être vigilant. Au grand jour, cette différence nous place dans la marge. Toutes les lois possibles visant à nous faire entrer dans le contrat social auront beau être votées, Nous avons fait et nous ferons partie depuis et pour la nuit des temps d'une minorité, et les minorités sont des cibles. Il y aura toujours du mépris, des mises à l'écart, des barrages, des menaces de mort, des violences verbales, des humiliations, des tumes d'égoutte et dans certains pays, des mises à mort comme celle d'un taureau dans l'arène. Allez, danse, danse, petit PD, petite lesbienne, danse avant que je ne te porte l'estocade avec mon épée. Je comprends que mes parents se soient demandé pourquoi, à quel moment, comment ça se manifeste. Y a-t-il un responsable ? Quel a été l'élément déclencheur ? Tous les parents s'interrogent. Étrangement, pour la plupart des homosexuels, ce n'est pas un sujet. Par pudeur, paresse, refoulement ou ignorance, je ne sais pas. Combien de fois ai-je entendu « Pourquoi j'aime les femmes ? Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas, je les aime, c'est tout. » J'ai lu des livres qui abordent l'homosexualité à travers des allusions, des évocations ou en appelant un chat, sous forme de roman, de récit, de prose poétique ou de poème. Ils illustrent une réalité, racontent l'attirance, les rencontres, les mois des sens et des cœurs, le rejet, la honte, la souffrance. Mais ils ne répondent pas à la question d'où ça vient, comment c'est fabriqué, qui est-ce ? Moi, j'ai envie de savoir. C'est une voix en moi. Impossible de faire comme si je ne l'entendais pas. Je ne crois pas au gène de l'homosexualité. Je crois aux histoires que je me suis racontées, à la réalité que j'ai transformée, au monde étranger qui m'ont traversé, au détour pour éviter l'abîme. Je crois à une alchimie, un mélange de sensations, d'émotions, de visions, avec la mémoire consciente et inconsciente des mots entendus, de grandes et petites phrases incrustées comme des pierres précieuses dans un bijou. Je crois que tout ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu une infinité de soirs et une infinité de matins où je me sentais la même que la veille, mais avec une minuscule différence. J'ai grandi en prenant un chemin que je ne connaissais pas. Je ne savais pas où il allait, comment il s'appelait. J'ai fait un pas, puis deux, puis mille avec un bandeau sur les yeux, et quand je l'ai retiré, je ne me suis pas vraiment reconnue. C'était moi et ce n'était pas moi. C'était ma vie et ce n'était pas ma vie. C'était une fiction.
Merci beaucoup. Alors Catherine, donc tu as lu ce magnifique passage. L'autre question peut-être aussi, c'est à mi-mot, hein, tu disais tout à l'heure, on ne parle pas de la sexualité de ses parents quand on a 4 ans, 7 ans. Voilà. Est-ce que par rapport à ta fille aujourd'hui, voilà, il y a des échanges possibles, des retours de sa part ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est un sujet comme le fait de savoir pourquoi on est homo ? Je ne sais pas, est-ce que sur ces questions-là, au-delà du livre qui fait trace, est-ce qu'il y a des choses, avec ton souci d'honnêteté, d'authenticité dont tu parlais, oui, hein, est-ce que, oui. Voilà, il y a des échanges alors, ou des choses à...
Alors avec elle, d'abord, il faut dire que elle a eu 4 parents, d'une certaine manière, et que ça a été très naturel pour elle. Elle ne s'est jamais posé la question et elle est très... Il y a un moment à l'adolescence, à l'école, où elle a dit qu'elle avait eu des parents divorcés. Alors, oui, ça, c'est le regard de la société, normal. Mais elle est d'un naturel désarmant, ça ne lui pose aucun problème. Elle le dit, elle a 38 ans, deux enfants, elle a... Et... on en parle beaucoup. Enfin, ce livre a été l'opportunité, mais notamment de parler beaucoup de son père et de son deuxième père, qui sont partis trop tôt, tous les deux. Et donc, c'est un deuil, c'était un des deuils difficiles pour elle. Et c'était un peu douloureux, très douloureux. Et je crois que ce livre a été aussi le déclencheur d'échanges très émouvants et très, très intéressants qu'on a pu avoir toutes les deux. Et aussi dans un partage où elle me... Si je m'interroge sur ma place, elle n'a de cesse de me... de me dire que j'ai une place dans son cœur. Voilà, ce qui est très... C'est une enfant magnifique.
Ça, de réassurance, en fait.
Oui, oui, oui. Et avec qui j'ai beaucoup d'échanges. Ouais.
Ce qui est intéressant, ce que tu dis, en fait, c'est que tu partages avec ta fille ce que partagent tous les parents. C'est-à-dire, effectivement, le départ de parents trop tôt, la tristesse que ça engendre. La question, c'est celle-ci, et ce n'est pas la question d'avoir été élevé par des parents homosexuels. Donc, c'est fort intéressant, hein, je trouve, ce retour, que finalement, la question des autres, peut-être parfois, et pas... ça repose un peu cette question un peu fondamentale, où est l'essentiel dans la question de la parentalité, qu'elle soit hétéro ou qu'elle soit homo.
Justement, moi j'avais une petite question à ce propos, parce que dans le livre, tu écris à un moment donné que la question d'avoir un enfant, donc, ce pourquoi nous étions ensemble, ce sujet prenait de la place, s'étendait, nous envahissait. Et, alors, c'est une interprétation, évidemment, mais du coup, moi, ça me fait un peu l'impression... est-ce que c'est forcément une nécessité dans un couple d'avoir un enfant ? Ce pourquoi on est ensemble ? Un couple...
Non, pas du tout. Mais... alors là, tu peux l'entendre, c'est le récit de deux personnes qui ont envie d'avoir un enfant. C'est le sujet.
Oui.
C'est le sujet.
Oui.
Le sujet, comme tu en as parlé, Florence, c'est l'homoparentalité.
Pas forcément un couple homoparental, quoi, n'importe quel couple.
Oui, oui, mais je ne parle pas de n'importe quel couple, là. Je parle de mon histoire.
Oui, oui, oui.
Tu vois ?
Mais c'est pas pour ça que vous étiez ensemble. C'est comme ça que je l'entends.
Mais il se trouve que on en a parlé peut-être deux jours après s'être rencontrés.
D'accord. Ouais, c'était quelque chose de fort, quoi.
Que c'est devenu le lien dans la rencontre.
D'accord.
Je pense que ça a... On s'est sentis concernés et ensemble pour ça, comme si cette attirance réciproque éprouvée. Alors qu'on n'avait pas eu le temps de construire un amour, vraiment, était relié à ce désir.
Oui, d'accord.
C'était très impressionnant.
Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est impressionnant, parce qu'il y a des couples qui se posent les questions. Est-ce qu'on va avoir un enfant ? Est-ce que pas ?
Plus de 40 ans après, nous avons un lien extraordinaire. Et je dis extraordinaire parce qu'il se vit, il est vivant, un lien vivant, alors que nous ne sommes plus en couple, autour de... Parce que nous avons une famille, autour de sept enfants et de petits-enfants. C'est vraiment, depuis toujours, c'est notre histoire.
C'est votre lien, quoi.
C'est notre lien et c'est notre histoire. Oui, mais ça, c'est assez... Je ne dis pas du tout que ça a quelque chose d'universel et pas du tout.
Non, mais c'était pas comme ça. Ça m'avait interpellée cette.
Oui.
D'accord. Une dernière question. Alors forcément, à chaque fois que nous lisons, nous avons des vues partielles et partiales, certainement. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu souhaiterais aborder de ton livre qu'on n'a pas abordé, qui tient particulièrement à cœur, ou ton actualité, si toutefois, sur le livre, tu as l'impression d'avoir dit pour toi l'essentiel ?
Oui, ce que je pourrais dire, c'est que l'écriture fait du bien, et fait d'autant plus du bien quand on sent que ça fait du bien à l'entourage aussi, et que je me souviens de d'Annie Ernaux qui avait écrit « Ce qu'on a vécu sans le comprendre, c'est une faute ». Et j'ai essayé de comprendre. J'ai tenté de comprendre cette histoire de vie.
Merci beaucoup.
Nous donnons rendez-vous à tous et à toutes au salon de Trentemoux, au salon du livre bien sûr, à la Maison des Îles, 18 et 19 mai, de 10 à 18 heures. Une soixantaine d'auteurs seront invités. Pour finir, Catherine a choisi Angèle, ta reine.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer.